L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Gloire à Dieu. Amen. Bien, moi, je suis content d'être ici aujourd'hui. Je suis content qu'on va passer du bon temps dans la parole de Dieu. Dieu est bon, et puis la semaine passée, comme vous vous rappelez, on a parlé de la perle précieuse. Si vous en rappelez, on a parlé que cette perle précieuse est Seigneur Jésus, que Jésus est précieux, et Dieu nous appelle à découvrir la splendeur de cette perle, non seulement juste constater que le Seigneur est là pour nous et qu'il est merveilleux et tout ça, mais le Seigneur nous appelle également à envoyer au Seigneur des messages d'amour dans la louange, que le Seigneur nous appelle vraiment à livrer notre cœur, tout comme un mari va démontrer de l'amour pour son épouse, bien nous, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est louer le Seigneur, le remercier. Et j'espère que cette semaine, vous avez vécu quelque chose de différent. Si vous en rappelez, la semaine passée, je vous ai vraiment encouragé de louer le Seigneur à la maison, de vous mettre des CD d'enseignement, des CD de louange plutôt, et juste prendre un temps dans la présence de Dieu. J'espère que vous l'avez fait. Si vous dites, j'ai oublié. Bien, heureusement, vous êtes encore en vie aujourd'hui et vous pouvez entrer dans cette dimension de la louange dans vos vies. Amen. C'est possible pour vous. Donc, je veux vraiment vous encourager. Si vous n'étiez pas là la semaine passée, j'aimerais ça vous encourager d'écouter le CD de la semaine passée qui est disponible soit sur la table ici en sortant ou sur l'Internet à la maison. C'est gratuit en l'écoutant. Mais c'est important pour nous de vraiment prendre ce temps-là à chaque jour dans la présence de Dieu, louer notre Dieu et vraiment passer du temps de qualité. C'est super important. Ça fait la différence entre un chrétien religieux et un chrétien victorieux. Le Seigneur nous appelle à vivre la vie en abondance, mais en même temps, il nous donne les clés pour avancer. Et aujourd'hui, le thème, le bras de l'Éternel, je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 53, on va commencer au premier verset. Quand on parle du bras de l'Éternel, ou dans certaines versions, ça va être écrit la main de l'Éternel, mais peu importe, qu'est-ce qu'on veut souligner ici, c'est la puissance de Dieu. Quand on parle du bras de l'Éternel, on vous parle que notre Dieu est puissant. Est-ce qu'il y en a ici ce matin, vous croyez ça? Amen. Dieu est puissant. Et si c'est une nouvelle théologie pour vous, ben gloire à Dieu, vous venez de l'apprendre. Et on va voir ensemble comment justement le Seigneur est puissant et comment Dieu veut révéler sa puissance dans nos vies individuelles. C'est une chose de connaître intellectuellement. Oui, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, mais c'est une autre chose de vivre la puissance de Dieu dans nos vies. Puis c'est ça qui fait la différence, n'est-ce pas? On peut aller à l'église toute notre vie, entendre des bonnes choses, mais juste... C'est comme Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais si je ne vis rien de ce Dieu-là dans ma vie, mais je passe à côté une vie de bénédiction. Et le Seigneur a fait en sorte qu'on puisse avoir cette lettre d'amour. C'est pour qu'on puisse vraiment bénéficier de ces révélations-là. Amen. Dans nos vies personnelles. Et maintenant, donc, on va premièrement juste commencer avec un mot de prière. On va remettre maintenant ce temps au Seigneur. Et moi, je m'attends, en tout cas, je relâche ma foi pour vous, que votre vie va être changée aujourd'hui. Vous avez dit, oui, mais pasteur, tu as déjà dit ça d'autres dimanches. Oui, parce que je m'attends à chaque dimanche qu'on va vivre des changements, parce qu'on n'est pas appelé à être stagnant et juste s'écraser là spirituellement, mais on est appelé à aller de gloire en gloire. Et il y en a plusieurs d'entre vous, vous allez de gloire en gloire, je le vois, je reçois des témoignages par courriel, même des gens, même à l'extérieur de cette église qui écoutent les enseignements, qui disent, j'ai été délivré, j'étais malade, mais là je suis guéri, j'étais comme ci, j'étais comme ça, mais Dieu m'a changé. Et c'est gloire à qui? C'est gloire à Dieu, parce que c'est seulement Dieu qui peut faire les changements dans les vies. C'est seulement le Seigneur qui est capable de guérir, qui est capable de restaurer, qui est capable de délivrer. Et ça me réjouit les témoignages qui rentrent, qui arrivent ici, et on voit des gens qui ont été captifs des années de temps, qui étaient à l'église pendant 25 ans, mais là, quand ils ont reçu la parole de victoire et cette parole de délivrance, ils ont rentré dedans, ils l'ont saisi par la foi, ils l'ont vécu pour la première fois en 25 ans de vie chrétienne. Puis moi, je dis gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu, parce que c'est ça le plan de Dieu. Quand on rencontre le Seigneur, on n'est pas censé de rester pareil. Amen. On n'est pas supposé de rester pareil. Quand on le rencontre, le Créateur de l'univers, celui qui est tout puissant, qui a un bras pas mal plus musclé que le mien, là, bien, ça change des vies. Parce que lui, il est capable de faire tasser toutes les choses négatives pour nous laisser rentrer dans notre destinée. Amen. On sert un grand Dieu et ce matin, on va passer du temps vraiment à examiner sa grandeur. Père éternel, on vient devant toi ce matin. On te remercie premièrement parce que tu nous as aimés. Père, on veut te remercier parce que tu t'es révélé à nous dans la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on rend toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ et de sa parole. Aujourd'hui, nous croyons, Seigneur, ta parole. Nous disons, nous croyons à l'avance, Seigneur Dieu, toutes les choses que tu veux nous révéler aujourd'hui par ton Saint-Esprit. On te remercie que ton Esprit dans cette maison, que ton Saint-Esprit fait un travail. Et même par l'Internet, à la radio, s'il y a des gens qui sont là, qui ont soif pour plus de toi. Aujourd'hui, on se met en accord et on dit oui, aujourd'hui, on va vivre plus de toi dans nos vies. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée où le diable va être encore plus frustré contre nous. Êtes-vous content de ça? Moi, je peux vous dire oui. Moi, je me réjouis parce que quand on avance dans les plans de Dieu pour nos vies, bien, le Seigneur se réjouit. Le Seigneur se réjouit. Pendant trop longtemps, on s'est fait voler comme église. Mais là, c'est le temps, on avance en Jésus. La première chose qu'on veut lire ensemble, c'est dans Ésaïe 53 et le verset 1. Je vais lire premièrement dans la Bible, Louis II. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ou dans la Bible du Sommeur, il est écrit, qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Avez-vous déjà goûté à la puissance de l'Éternel dans vos vies? Avez-vous déjà goûté à la puissance de Dieu dans vos vies? Peut-être à un certain niveau, mais gloire à Dieu, il y a encore beaucoup plus qu'on peut vivre dans la puissance de Dieu et dans sa présence. Si vous êtes satisfait aujourd'hui, que le Seigneur vous libère. Moi, je ne suis pas satisfait aujourd'hui. J'ai goûté une mesure de sa puissance dans ma vie, mais gloire à Dieu, j'ai encore une soif là pour plus de Dieu dans ma vie. Si vous avez encore soif, ben Dieu va vous rencontrer là où est votre soif. Gloire à Dieu. Le mot ici, qui a reconnu le bras de l'Éternel dans l'hébreu ici, c'est le mot Zerowa, Z-E-R-O-W-A, pour ceux qui veulent faire des recherches dans la Strong, c'est le numéro 2220, qui veut dire habituellement bras, avant-bras, épaule ou symbole de force. Et qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va comprendre ici la force ou la puissance de Dieu. Si vous êtes rentré dans cette église ce matin pensant, bien moi, il y a des choses dans ma vie que j'ai qui sont là depuis des années et je n'arrive pas à m'en sortir. Heureusement, aujourd'hui, si vous placez votre foi dans ce que le Seigneur a fait pour vous il y a 2000 ans, vous allez recevoir la puissance de Dieu pour expérimenter la liberté comme jamais auparavant. Amen. Vous pouvez vivre la puissance de Dieu aujourd'hui. N'attendez pas jusqu'à la fin de la réunion. Il y a des gens qui disent, bien, à la fin, peut-être, je vais recevoir. Mais même quand vous entendez la parole de Dieu, c'est une parole de foi qui est relâchée sur vous. Même pendant ce temps-là, vous avez un besoin, relâchez votre foi pendant ce temps-là pour vivre la délivrance que vous avez besoin, pour vivre la puissance de Dieu, que le bras de l'Éternel vienne sur vous et vienne vous sauver. Amen. Ce bras de l'Éternel-là, elle n'est pas là pour vous écraser. Des fois, la religion a enseigné ça. Le bras de l'Éternel est là avec son bat de baseball, puis ça, on va vous frapper si on peut. Non, le bras de l'Éternel est là pour vous relever par sa puissance. Il est là pour vous entourer, vous donner son amour, sa compassion. C'est le bras de l'Éternel, un Dieu puissant. Je continue dans la lecture au verset 2 dans Ésaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ici, vous comprenez, on parle de Jésus certainement. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Quand le Seigneur Jésus s'est fait crucifier, quand il s'est fait flageller pour nous, il a vécu vraiment l'horreur, il a vécu une grande souffrance. Et les gens pouvaient même se détourner le visage de lui tellement il faisait peur, tellement il avait souffert, tellement il saignait, comment il était meurtri. Nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus a porté vos souffrances. Gloire à Dieu, il a porté vos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Peu importe les douleurs, peut-être vous vivez des douleurs en ce moment dans cette église. Peut-être vous êtes assis là et même physiquement vous avez des douleurs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes plus obligé de porter cette douleur-là parce que Jésus l'a porté pour vous. Il a porté vos souffrances. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il y en a qui vont dire gloire à Dieu pour ça. Amen. Amen. Si nous pouvons croire que le Seigneur Jésus a tout accompli pour nous, là 2000 ans, qu'il est allé mourir sur la croix, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris aujourd'hui, et nous pouvons croire dans cette puissance, pouvons-nous croire dans la puissance de Dieu aujourd'hui pour nos vies? Des fois, on peut dire, oui, je crois dans la parole de Dieu, je lis des récits. Admettons, même à l'école du dimanche, on a lu toutes sortes d'histoires, Daniel dans la fosse aux lions, et puis on a vu la main de l'Éternel qui est venue, qui était là pour délivrer Daniel. Il y a eu une protection surnaturelle. On se rappelle de l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Pas mon chac, ton chac et ton bungalow. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, vous vous rappelez de cette histoire-là, où les trois fils d'Israël étaient là, et puis là, ils devaient se prosterner devant une statue de Nébuchadnezzar, et puis là, ils ont refusé de compromettre leur foi, et puis ils ont dit, non, on va se tenir pour le Dieu d'Israël. Ils ont refusé de plier le genou devant cette statue païenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une conséquence à leur foi. Là, ils ont passé devant Nébuchadnezzar, puis ils ont dit, écoutez, hey, vous n'êtes pas prosterné comme vous étiez censé le faire. Et là, vous réalisez la sentence. Vous êtes censé d'aller brûler dans cette flamme, dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une autre opportunité. On va vous laisser fléchir le genou. Lorsque vous allez entendre la musique, là, vous allez vous prosterner devant la statue. Et là, les trois Shadrach, Meshach et Abednego sont là, ils ont dit, c'est pas nécessaire. On sait qu'on le fera pas parce qu'on ne veut pas pécher contre notre Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été jetés dans la fournaise ardente, mais ils n'étaient pas tout seuls. Même, vous savez, c'était des gens de foi qui étaient là. Même si notre Dieu ne délivre pas, on ne fera pas cette chose. On ne veut pas fléchir le genou devant cette idole. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente? Vous connaissez l'histoire? Bien, le Seigneur était là parmi eux. Et là, Nébuchadnezzar était là. Il a dit, mais on a envoyé trois personnes dans les flammes et j'envoie un quatrième. Voyez, le bras de l'Éternel était là, le Seigneur, la puissance de Dieu s'est révélée pour eux-mêmes dans cette flamme, même dans cette fournaise ardente. Et peut-être dans votre vie spirituelle, peut-être vous ressentez que vous êtes dans une place, dans une fournaise, et puis vous sentez que c'est difficile, vous vivez des épreuves, peut-être dans votre couple, peut-être dans vos finances, peut-être dans votre santé, peu importe, je peux vous dire que si vous avez Dieu avec vous, vous avez la majorité. Amen. Dieu est plus grand. Et vous pouvez imaginer ces trois jeunes hommes-là qui ont refusé de fléchir le genou, qui étaient là, il y avait la foi, ils étaient même prêts à vivre l'horreur, brûler dans des flammes. Et même ceux qu'ils ont emmenés là-bas vers les flammes sont morts. Les soldats qui se sont déplacés pour aller les mettre dans les flammes sont morts tellement que c'était puissant. Mais pourtant, eux, ils n'ont même pas eu l'odeur de la fumée. N'est-ce pas merveilleux? Vous pouvez lire l'histoire dans Daniel chapitre 3. Ils n'ont même pas eu l'odeur de la boucane. Tellement Dieu est bon, tellement quand Dieu nous protège, quand Dieu est avec nous, on est béni. Gloire à Dieu. Je vous raconte cette histoire-là, une histoire de l'école du dimanche. Et puis vous dites, oui, mais je crois ça, je crois dans la puissance de Dieu, Dieu était capable de le faire. Mais là, c'est très bien de croire dans le passé que Dieu était capable, mais est-ce que Dieu est capable d'agir dans vos vies aujourd'hui? Est-ce qu'il est vraiment capable? Vous avez dit, oui, je le crois intellectuellement. Mais maintenant, si vous avez des besoins dans votre vie, des vrais besoins dans le quotidien, êtes-vous prêt à relâcher votre foi comme Shadrach, Meshach et Abednego? Êtes-vous prêt à relâcher votre foi et dire, oui, Seigneur, je m'attends à vivre une provision surnaturelle dans ma vie? Bien, aujourd'hui, si vous dites, oui, je vais relâcher ma foi pour vivre le miracle dans ma vie, je me réjouis avec vous parce que vous êtes parmi des gens qui vont le vivre. Amen. Si vous dites, non, je ne crois pas, je ne le vivrai pas, moi, je suis d'accord avec vous également. Si vous le dites, vous ne le vivrez pas, c'est certain. Si vous dites, non, c'est pas pour moi, les miracles, c'était pour là, 2000 ans ou même 6000 ans, peu importe. Si vous êtes là et puis vous limitez Dieu dans votre vie, il est limité pour vous. Mais si vous dites, moi, j'ai pas de limite pour mon Seigneur, il est grand, il est puissant, le bras de l'Éternel, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour venir me chercher, me toucher. Amen. Donc, si nous pouvons croire dans cette puissance dans le passé, pouvons-nous croire aujourd'hui? Cette semaine, comme j'étais en préparation pour ce message, qu'est-ce qui est venu? On a tous besoin de la puissance de Dieu dans nos vies. Nous avons tous besoin du bras de l'Éternel. Mais vous savez, il y avait une chose qui était dans mon cœur, qui est venue assez fort, c'est que le Seigneur veut faire un travail au niveau des couples dans cette église. Ça, c'est une des choses, le Seigneur me montrait, il y a des problèmes que peut-être vous ne m'avez pas appelé, vous ne me l'avez pas dit, mais le Seigneur mettait sa flashlight céleste sur cette situation, qu'on a besoin, l'œuvre du Saint-Esprit, nous avons besoin d'expérimenter la puissance de Dieu au niveau de nos couples. Comprenez ceci, que l'ennemi, il connaît l'historique, il connaît le cœur de Dieu pour le couple. Réalisez que la première institution que Dieu a créée, ce n'était pas l'Église, mais c'était le couple. Et puis, l'ennemi, lui, veut venir diviser les couples pour détruire des familles. Et quand une église composée de familles, quand ces familles-là sont détruites, mais qu'est-ce qui se passe? Les églises aussi sont détruites. Il y a toutes sortes de problèmes dans les églises. Mais une des choses, je peux vous dire, les statistiques dans le monde chrétien sont identiques aux statistiques dans le monde païen. OK? Quand on parle de divorce, il y a autant de divorces dans le corps de Christ qu'il y a pour ceux qui ne sont pas sauvés ni de nouveau. Est-ce que c'est normal, enfant de Dieu, qu'il y ait autant de divorces parmi nous? C'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut vivre la puissance de Dieu dans nos vies, dans nos églises, dans nos couples? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est tourner encore nos regards dans la parole de Dieu pour comprendre la prescription céleste pour notre couple. Moi, là, je suis ici aujourd'hui, puis je me réjouis parce que s'il y a des gens ici dans le besoin au niveau de leur couple, vous allez vivre un miracle si vous croyez la parole de Dieu. Si vous dites, moi, là, aujourd'hui, je vais mettre ma vie selon la parole de Dieu, je vais commencer à découvrir la bonté de Dieu à ce niveau-là dans mon couple, vous allez vivre le Saint-Valentin le plus glorieux de votre vie. Amen. Comme je me préparais, j'ai réalisé par après que la Saint-Valentin arrivait. Ça fait que je peux vous dire, c'est pas parce que, oh Seigneur, qu'est-ce que je devrais prêcher? Oh, c'est Saint-Valentin, bingo, ça va être, on va parler sur les couples. Ça n'avait aucunement rapport. Mais c'est Seigneur qui a déposé en mon cœur juste cette chose-là, qu'il y a des couples parmi nous qui ont besoin d'une touche de Dieu. Si vous dites, oui, mais moi, je suis pas en couple, je vais m'en aller, là, je vais aller manger du McDo tout de suite. Non, mais je peux vous dire, les principes pour les couples vont, vous pouvez les reproduire dans toutes vos relations. Amen? Donc, on va juste commencer maintenant en parlant de la puissance de Dieu pour votre couple. Dans Genèse chapitre 18 et le verset 14, vous pouvez aller là, Genèse 18, verset 14. Je peux vous dire, même avant de lire ce texte-là, il y en a certains d'entre vous, peut-être, vous êtes là puis vous dites, bien, la puissance de Dieu pour Shadrach, Meshach et Abednego, OK, je crois là-dedans. Certainement, Dieu est capable. Mais pour moi, dans mon couple, pasteur, tu connais pas notre historique. Tu connais pas les choses qu'on a vécues. Tu connais pas ci, tu connais pas ça. Et pour moi, c'est impossible. Peut-être vous dites, ben ma femme est même pas sauvée. Ou peut-être vous dites, ben mon mari est même pas sauvé. Qu'est-ce que Dieu peut faire là-dedans? Mais je peux vous dire, Dieu est tout puissant. Et le Seigneur aujourd'hui vous pose une question pour ceux qui se posent des questions et qui se disent, je suis dans le doute aujourd'hui. Dans Genèse 18, verset 14, en français courant, il est écrit, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Là, je vais vous donner la réponse dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, versets 1 à 2, dans la seconde 21, il est écrit, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Je vais relire cette chose-là, ce verset. « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Le Seigneur est encore capable de faire un miracle dans votre couple ce matin. Vous dites, oui, mais pasteur, tu comprends pas nos choses, nos défis. Mais Dieu comprend vos défis. Dieu connaît les situations. Dieu connaît le passé, l'historique dans votre couple. Dieu connaît toutes choses. Donc, si vous pouvez enlever les barrières qui vous séparent de Dieu, qui mettent des barrières aussi ou un frein pour ce miracle qui veut arriver dans votre vie, aujourd'hui, vous pouvez peut-être vivre quelque chose. Amen. Puis vous dites, oui, mais j'ai été souvent blessé. J'ai peur de relâcher cette fois-là ma foi et m'ouvrir encore parce que j'ai peur d'être déçu. Bien, Dieu ne travaille pas dans la peur. Dieu travaille juste dans la foi. Donc, aujourd'hui, enlevez les craintes, renoncez à ces craintes-là et dites, Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision de relâcher ma foi encore une fois. Et là, je m'attends de vivre un miracle. Amen. Le Seigneur va faire des miracles parmi nous. Vous savez, les témoignages qu'on a des gens délivrés, bien, Dieu veut délivrer de tous les œuvres de l'ennemi. Toutes les choses négatives que Satan est venu faire dans vos vies, le Seigneur veut tout restaurer. S'il y en a ici, c'est nouveau pour vous, bien, gloire à Dieu. Dieu veut tout restaurer. Il n'y a rien qu'il veut laisser comme ça. Il y a des choses brisées dans nos vies. Dieu veut passer tout. Il veut tout guérir, tout restaurer. Puis moi, je suis déterminé. Dans cette église, nous serons une église de foi. Où on va relâcher notre foi pour tout vivre l'héritage qui nous appartient. Il y en a qui vont dire, oui, bien, moi, j'ai vécu des miracles au niveau de mes finances. Il y en a d'autres qui ont été guéris dans leur corps. Ils disent, wow, gloire à Dieu, Dieu a fait ça. Oui, mais c'est bien. On glorifie Dieu pour ces percées-là. Mais Dieu n'a pas fini, enfant de Dieu. Continuez à croire pour tout. Le package deal, amen. Le package deal qu'on peut dire, le forfait divin. Quand Dieu nous a sauvés, il veut nous sauver au complet. Amen. Dans Ésaïe 59, on vient de le lire, je vais relire. « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son orgueil trop dur pour entendre. » Et là, au verset 2, c'est dit, « Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Vous savez, il y a un autre texte ici qui nous parle justement qu'est-ce qui peut empêcher la voix de l'Éternel. Ici dans 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7, dans la Bible du Semeur. Ici, ça nous parle l'importance de cette relation entre mari et femme. Et ici, on voit l'apôtre, dans 1 Pierre 3, 7, ça nous parle ici, ça s'adresse plutôt au mari. Ça dit, vous de même, mari, vivez, dans 1 Pierre 3, verset 7, vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Ainsi doivent recevoir ou hériter avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Des fois, nous les hommes de Dieu, on aime le Seigneur, mais on se dit, mais comment ça j'ai des problèmes dans ma vie spirituelle? Mais parfois, c'est parce qu'on a cette brisure entre nous et notre épouse. Des fois, on a manqué de pardon envers notre épouse. Et vice-versa aussi, une femme ne peut pas marcher dans le pardon et puis elle aussi, elle peut avoir des brisures dans sa relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut manquer de pardon et vivre notre vie chrétienne isolée de la puissance de Dieu? Non, le Seigneur est là, il veut restaurer et puis on vient de lire, non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Dieu peut agir, mais là, la décision revient encore une fois à nous. Dieu peut agir, Dieu peut restaurer, Dieu peut guérir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va marcher dans le chemin de l'Éternel pour vivre le miracle? Si on dit oui, on va marcher dans ce chemin-là, puis on va dire, Seigneur, viens travailler dans mon couple, le Seigneur va le faire. Mais peut-être vous allez devoir marcher sur votre orgueil. Peut-être vous aurez besoin de vous repentir et demander pardon à votre épouse ou à votre mari. Ça se peut que ça va vous coûter de l'orgueil. Mais comme j'ai déjà dit, on a en masse, on peut en dépenser en masse, il va en rester même. Donc aujourd'hui, si vous dites, moi là, je suis pas attaché à mon orgueil, moi je veux être attaché à Dieu et je veux vivre tout ce que Dieu en réserve pour moi, même au niveau de mon couple. Si vous n'êtes pas en couple, bien peut-être un jour vous allez le devenir. Et même si vous n'êtes pas peut-être appelé au mariage, peut-être que vous êtes appelé au célibat, peu importe, vous êtes appelé à côtoyer des gens. Et ces mêmes principes-là, vous êtes appelé à les vivre, marcher dans le respect. Mais ici, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est dit, traitez-les, en parlant des femmes, avec respect. Une des choses, je vais vous parler homme, mari, si vous êtes marié, traitez votre épouse comme un cadeau de Dieu dans vos vies. Il y a des femmes qui sont là, qui ont été meurtries, qui ont vécu toutes sortes de choses difficiles, et là, ils se marient, et là, qu'est-ce qu'ils vivent? Même dans leur couple, ils ne se sentent pas chéris. Ne se sentent pas aimés par leur mari. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vraiment que son amour en vous, ok, son amour divin en vous coule à travers vous pour votre épouse, pour que votre épouse puisse se sentir aimée, chérie et respectée. Et là, il y a des femmes qui peuvent dire amen, amen, amen. Mais là aussi, épouse, le Seigneur vous appelle également à respecter et à chérir votre mari. Vous savez, moi, j'ai déjà connu une sœur dans le Seigneur qui était là, qui disait toutes sortes de choses sur son mari. Elle disait, il est comme ci, il est comme ça, puis il est pas comme ci, il est pas comme ça, je voudrais qu'il soit comme ceci, je voudrais qu'il soit comme cela. Et puis là, elle était toujours en train de dénigrer son mari devant les enfants et devant ses amis. Et là, elle se posait la question, mais pourquoi mon mari n'est pas plus comme avant ou comme je souhaiterais? Bien, cette femme-là est en train de dénigrer son mari. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Dieu a une pensée là-dessus. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'on fasse des ajustements dans nos vies. Parce que comment on va semer dans notre relation, c'est qu'est-ce qu'on va récolter également. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ensemble un passage qui est assez controversé dans Éphésiens chapitre 5. Et on va aller au verset 22 jusqu'à 33. Et on va parler de la soumission de la femme. Dites soumission. Wow! Hey, ça, pour les femmes, est-ce que ça vous a fait mal dire ça? La soumission, ok, on va en parler bibliquement. La soumission, c'est vraiment pas compliqué. La soumission, ce n'est pas l'homme qui domine la femme, c'est la femme qui reconnaît le leadership spirituel de son mari dans le couple et puis qui décide de se soumettre, qui accepte, qui veut volontairement se soumettre au leadership spirituel de son mari parce que Dieu a mis de l'ordre dans la famille. Le fait que la femme se soumette à son mari n'est pas un signe qu'elle est inférieure à son mari, mais c'est qu'il y a des rôles différents dans la famille afin que la famille puisse progresser dans le chemin de Dieu. Il y en a qui vont dire « Ah, mais ça, c'est démodé. » Mais je peux vous dire, le chemin de Dieu est toujours parfait. Et les modes changent constamment, mais ce que Dieu a dit, ça fonctionne et c'est béni. Puis vous allez comprendre que c'est super facile à une femme qui va vivre ce contexte-là. C'est super facile pour elle de se soumettre parce qu'elle sait que son mari l'aime énormément. On va aller ensemble dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 22 à 33. Il est écrit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » Une des choses que je veux souligner ici dans le texte, ça ne dit pas ici « le mari est le chef » ou les hommes plutôt, l'homme est le chef de toutes les femmes de l'Église. On va souligner ça maintenant. Comprenez cela. J'ai déjà rencontré une sœur qui me racontait ce témoignage. Elle était à l'église, elle jasait dans le portique de l'église et il y a un homme arrogant, ignorant, qui a dit, « Ben là, qu'est-ce que tu as dit? T'es juste une femme. » Hey, voyons donc. Ça, c'est un homme qui avait vraiment mal compris. On ne peut pas dire ça. C'est pas, je peux vous dire, je suis le chef spirituel de mon épouse, mais il n'y a aucun autre homme dans cette maison spirituelle qui est le chef de mon épouse. C'est pas les hommes sont les chefs des femmes. Comprenez? C'est dans une relation, dans le couple, Dieu a départi des responsabilités différentes et la femme aime ça. Quand c'est biblique, la femme aime ça que son mari soit un leader, que ça soit pas une porte molle. Les femmes aiment ça. Vous allez voir. Pourquoi? Vous allez voir comment Dieu a tout organisé ça. Dieu est très intelligent. Des fois, les gens pensent, oh, ben, c'est pas correct, c'est ancien temps. Donc, la façon que Dieu a conçu le mariage, c'est super béni. Ça va très, très bien. Puis, il y a beaucoup d'années d'histoire là-dedans qui le révèlent. Bon, je continue. Je recommence plutôt. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme aussi doit l'être à leur mari en toutes choses. Dans la Bible du Sommeur, ça dit en toutes circonstances. Marie, aimez vos femmes. Là, voyez-vous, on parle de la femme qui est là. On dit à la femme, soyez soumise. Mais là, remarquez ce que l'homme doit faire, le mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Imaginez une femme qui est mariée avec un homme qui l'aime tellement qu'il est supposé de vouloir être même prêt à mourir pour elle. Si une femme est bien mariée comme ça, la soumission est super facile parce qu'elle sait qu'elle a un bon Jack. Elle sait qu'elle a un homme qui l'aime énormément, qui va prendre soin d'elle. Il ne demandera jamais de faire des choses dégradantes. Il ne sera pas là en train de la manipuler, la dominer. Non, aucunement. Il va la chérir. Il va la chérir. Le contexte est clair. Ici, c'est une femme super bénie. Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Au verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Ça, c'est un homme qui va aimer sa femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Donc, le mari est responsable ici d'amener le pain et les œufs et le bacon, même si on ne mange pas de porc. Mais il la nourrit. Il la nourrit, en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ici, on a vu plusieurs choses concernant la relation du mari et de la femme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui me réjouit, c'est que le Seigneur a pris la peine de nous démontrer ici des choses concernant le couple. Et le cœur de Dieu pour le couple, c'est toujours la bénédiction. Si on comprend, Dieu, il y a toujours un cœur d'amour pour les gens, pour ses créatures, pour ses enfants. Il y a un plan de bénédiction pour le couple. Une des choses, Marie, aimez vos femmes. Une des choses qu'on peut voir ici, c'est que on comprend que un besoin inné de la femme, c'est de se sentir aimée. C'est un des besoins. Certainement, un homme aime ça aussi. Il a besoin de se faire sentir, il a besoin de se sentir aimé. Mais pour la femme, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important, c'est qu'elle se ressente aimée. Certainement respectée, on n'est pas en train de dire qu'elle n'a pas besoin des autres choses, mais un besoin inné, elle a besoin de se sentir aimée par son mari. Le mari, lui aussi, a besoin de se sentir aimé, mais une des choses, ça dit que la femme respecte son mari. Une des choses vraiment importantes pour le mari, c'est qu'il puisse ressentir le respect de son épouse. Une chose super importante, il a besoin de se sentir valorisé, que c'est un homme que sa femme respecte. Là, il y a des femmes, comme tantôt je vous expliquais, des femmes qui vont dénigrer leur mari. Et puis là, ils se demandent, mais comment ça mon mari, il est pas plus fin avec moi? bien, si vous dénigrez votre mari et son besoin inné, là, qui est le respect, si vous ne comblez pas ce besoin-là, vous n'êtes pas en train de travailler pour la santé de votre couple, vous êtes en train de détruire votre couple. Très important de dire ça. Vous allez dire, ah, ben, comment ça on entend parler de ça à l'Église? Parce que, comme j'ai dit, Dieu, il est concerné pour vous. Il veut que vous soyez bénis à tous les niveaux. Et le couple, c'est important pour vous. Savez-vous ça? Vous vous réveillez à chaque matin avec votre épouse ou votre mari. Bien, c'est important qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu sur notre couple pour marcher dans le chemin de l'Éternel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes là puis vous dites, bien, peut-être, moi, je ne respecte pas mon mari comme je devrais. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, vous allez dire, bien, je vais changer ma façon d'agir avec lui. Et pareillement, si vous êtes un mari et vous vous dites, bien, ma femme, peut-être, je suis pas là vraiment pour lui démontrer mon amour. Il y a des hommes qui disent jamais à leur femme qu'ils aiment ou qui font jamais rien pour démontrer de l'affection. Vous savez, une femme a besoin de se faire cajoler, savez-vous ça? Une révélation. La femme a besoin de ressentir l'amour de son mari. C'est vrai? Ah, il y en a qui se disent, ah oui, une révélation. Non, mais c'est vrai, la femme, elle a besoin de ressentir l'amour de son mari. Donc, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Avant de vous marier, vous êtes supposé vous poser la question, est-ce que j'aime ma femme à un tel point que je suis prêt à donner ma vie si je devais le faire? Moi, avant de me marier, c'est ça que je me suis posé comme question pour savoir si Mathilde était la femme de ma vie. Je me suis posé la question, est-ce que je suis prêt, est-ce que je l'aime assez, que je serais prêt à mourir pour elle? Puis ma réponse était oui. Je savais que je l'aimais, que c'était vraiment ma femme à cause de ça. Là, je dis ma femme. Il y en a qui vont dire, mais c'est la possession. Non, non, mon épouse, OK? Moi, je suis son mari. OK, on continue. Mais c'est vraiment important qu'on puisse comprendre ça. Puis quand la femme ne reçoit pas l'amour, même dans son couple, qu'est-ce qui se passe des fois? Qu'est-ce qui explique des chutes parfois? C'est qu'elle va se donner à quelqu'un d'autre qui va lui exprimer de l'amour. Est-ce que ça l'excuse le péché? Non, ça n'excuse rien, mais ça explique des choses. Si vous voulez que votre couple soit béni, démontrez de l'amour envers votre femme. Et femme, si vous voulez être chérie par votre mari, contribuez aussi à rendre ça plus facile à être aimée. C'est vrai. Il y a des femmes qui sont là, au début de leur relation, ils se maquillaient, ils s'arrangeaient belle, ils se coiffaient, ils se brossaient les dents. Mais là, ils se marient, ils se sont tous débarrassés de leurs vêtements, là. Puis là, ils sont rendus juste avec des vêtements de jogging, des gros sneakers, ils se peignent plus, ils brossent plus les dents. Et puis là, hey, ils m'aiment pas comme avant, je comprends rien. Je comprends pas, c'est un divin mystère, ils m'aiment plus avant, ils m'ont plus d'affection, qu'est-ce qui se passe? Mais peut-être, regarde-toi dans le miroir. Non, c'est très spirituel que je vous dis. Non, mais sérieusement, c'est des choses pratiques, là. Mais êtes-vous encore charmante pour votre mari? C'est pas spirituel, vous dites. Non, mais c'est vrai. Êtes-vous encore charmante? Est-ce que vous lui parlez avec douceur ou c'est toujours avec mépris? Hey, t'as-tu sorti les vidanges? Oui, c'est peut-être un besoin, mais peut-être, chérie d'amour de gloire, as-tu sorti les vidanges? Mon épouse, Mathilde et moi, je l'appelle toujours chérie de gloire. Là, les gens trouvent ça drôle, mais c'est notre expression parce que notre vie est glorieuse. Puis on active la gloire comme ça, chérie de gloire. Mais c'est vrai, on peut dire, chérie de gloire, pourrais-tu sortir les vidanges? Gentiment, juste le ton. Êtes-vous, épouse, êtes-vous encore charmante pour votre mari? Si vous êtes charmante, vous faites des muffins, là. Vous descendez dans son bureau, vous lui donnez un muffin avec un petit café, tout prêt. Pasteur Jérémy dit, alléluia. Non, mais vous faites des petites attentions, c'est pas compliqué. Faut semer de l'amour si on veut en récolter. Hein? Rappelez-vous, arrêtez-vous peut-être dans votre vie, la façon que vous vous parlez. Si vous parlez toujours, c'est rude, c'est toujours, ou c'est juste pas raffiné, il y a pas plus d'amour que vous avez pour votre frère ou votre sœur. C'est comme, c'est pas normal. Faut qu'il y ait cet entretien-là. C'est très spirituel que je vous dis là en passant. Une femme à la recherche de l'amour se donnera à un homme qui ne l'aime pas assez pour lui promettre fidélité dans l'état sacré du mariage. Dans notre société, il y a plein de gens qui vivent ensemble avant de se marier. Est-ce que c'est le plan parfait de Dieu? Non, c'est pas le plan parfait de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on puisse tellement s'aimer, qu'on a tellement réfléchi à cette union, qu'on est prêt à se donner l'un envers l'autre puis dire « moi, je te promets fidélité ». Ça, c'est la façon parfaite de Dieu. C'est le chemin parfait de Dieu. Puis si vous dites, ouais, mais nous, on a commencé à l'envers. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous? Oui, il y a toujours de l'espoir avec Dieu parce qu'on peut embarquer sur le chemin de l'Éternel et vivre la bénédiction. Dieu est toujours là pour nous pardonner, pour restaurer des choses. Mais faut dire, on va changer notre façon de penser. On va être renouvelé dans notre pensée pour s'adapter et laisser la parole de Dieu nous transformer. Aujourd'hui, je parle au mari. Marie, aimez-vous votre femme comme Christ a aimé l'Église? Aujourd'hui, si vous êtes capable de dire « oui, j'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église », bien bravo, gloire à Dieu, continuez comme ça. Si vous dites « pas vraiment », Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, vous fait changer. Et tout le monde dit Amen. Femme, honorez-vous votre mari comme devant vos enfants ou devant les amis. Honorez-vous votre mari. Si les épouses ici, vous êtes là et vous dites, non, j'honore pas vraiment mon mari, je le bâtis pas dans son estime, mais au contraire, je le diminue, je le dégrade, je le fais toujours sentir comme un moins que rien. Aujourd'hui, c'est une journée pour changer ces choses-là. Est-ce que vous bâtissez votre mari dans vos conversations? Êtes-vous capable de louer votre mari et lui souligner les éloges ou lui souligner les qualités positives dans sa vie? Vous dites, oh, mais il y a tellement de défauts! Êtes-vous capable de trouver des choses positives dans sa vie? Est-ce qu'il y a des bonnes choses dans sa vie ou c'est juste une gang de défauts? Avez-vous marié que des défauts? Si aujourd'hui vous êtes marié, puis vous pouvez voir, il y a des belles choses dans sa vie. Je vais souligner ça. Je vais commencer à dire les choses que j'apprécie. Vous allez voir, il va y avoir un changement dans votre relation. Tout d'un coup, votre mari va commencer à être plus fin. Peut-être que ça va lui tenter de vous faire une caresse à l'occasion. Parce qu'il va sentir, ma femme, elle m'apprécie. C'est important. C'est des choses de base, mais on dit, des fois, on ne l'applique pas. Troisième question. Passez-vous, là je m'adresse aux maris et aux femmes, passez-vous du temps ensemble pour avoir du plaisir ensemble. Avant de vous marier, peut-être vous allez faire des sorties, vous allez au restaurant, vous passez du temps à échanger, à vous connaître, à converser, puis là, vous étiez vraiment dans un temps absorbé l'un envers l'autre, vous étiez vraiment comme dans cette relation où vous étiez intéressé l'un à l'autre. Moi, qu'est-ce qui me dérange vraiment, c'est quand je vais au restaurant avec mon épouse, on est là, on parle, puis le couple à côté de nous, là, sont là avec leur journal, puis ils nous écoutent parler pendant toute la conversation. Ça, là, si tu peux le dire, ça me tape ses nerfs. Des fois, j'ai goût de dire, écoutez, est-ce que vous avez rien à vous dire? Aujourd'hui, si vous êtes ce couple-là, vous nous suivez au restaurant, partout où c'est qu'on va, puis vous ne parlez pas, faites un changement. Parlez-vous! Si vous êtes ensemble, à quelque part, il y a une communication à quelque part pour que vous vous ramassiez ensemble en train de boire un café. Non, mais c'est important. Faut entretenir ça après le mariage. Il y en a qui pensent qu'on a mis l'anneau sur le doigt, puis bingo, c'est fait. Là, on s'oublie, puis on s'entretient plus. C'est important de s'entretenir. Faites des sorties ensemble, mais vous dites, ouais, mais on n'a pas les moyens présentement. Si vous n'avez pas les moyens pour entretenir votre relation avec votre épouse ou votre époux, vous allez avoir les moyens pour le divorce. C'est vrai, ça. C'est comme ça que ça marche. Si on s'entretient pas, on va dépenser pour les avocats. C'est mieux d'aller au cinéma, c'est plus le fun. Bon. Là, je dis cinéma, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. C'est important, c'est des choses de base, mais le Seigneur, tellement un cœur, il veut tellement montrer sa puissance dans votre couple, il est capable de restaurer votre couple. Vous dites, ouais, mais il n'y a pas d'espoir, tu ne connais pas notre histoire. Il est capable de restaurer si vous êtes prêt à pardonner. Ici, je ne dis pas de vous laisser abuser. Là, s'il y a des situations terribles que vous savez qu'il y a besoin d'un miracle, Dieu est capable, mais Dieu ne permettra jamais l'abus, Dieu ne permettra jamais la destruction de quelqu'un aux dépens de l'autre. Non, s'il y a quelque chose, vous viendrez nous rencontrer, puis on a de la relation d'aide pour vous. Le Seigneur veut restaurer, mais des fois, il y a besoin de repentance, un changement. Dieu est contre l'abus. Amen. Il n'y a pas d'abus de femmes, des femmes qui se font battre, des histoires horrifiques. Pour moi, un homme qui bat sa femme, ce n'est pas un homme. Amen. Bon. Mais tout ça pour dire que des fois, il y a une place au pardon. Des fois, ce n'est pas des choses comme ça, mais c'est juste des temps où on n'a pas été dans l'amour que Dieu nous appelle à vivre. Donc, ça, on peut pardonner. Amen. Semons ce que nous voulons récolter dans notre couple. C'est un principe spirituel. On va aller ensemble dans Galates chapitre 6 et versets 7 à 9. Galates chapitre 6 et versets 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons point. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est juste un principe. C'est un principe à tous les niveaux dans nos vies. On peut le vivre à plein de niveaux. Si on veut semer de l'amour dans la vie de quelqu'un, qu'on soit marié ou non, on va récolter de l'amour. C'est une chose juste normale. Mais l'une des choses que je dois vous demander, je m'adresse encore au mari. Dans Proverbe 31, verset 28. Proverbe 31, verset 28. Je peux vous dire, mari, si vous êtes, bon, dans cette relation, vous êtes marié avec votre épouse, et puis vous aimeriez ça, que votre épouse soit dans la joie, tout ça, Est-ce que vous pratiquez Proverbe 31, verset 28? Dans Proverbe 31, nous découvrons la description de la femme vertueuse. Vous lisez cela, vous dites « Wow, c'est une femme absolument fantastique ». Mais faites-vous comme le mari de la femme vertueuse. On va voir ensemble ici dans Proverbe 31, verset 28. Ça dit « Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. » Bible du Sommeur, ça dit « Fait son éloge ». Donc, le mari aussi est là pour louer sa femme, l'apprécier. Ça, c'est une chose, enfant de Dieu. Si vous êtes ici ce matin, vous êtes marié, Dieu vous appelle, mari, à féliciter, honorer votre femme également, à la souligner. Juste des fois, elle vous fait un repas, vous venez de manger un bon repas ensemble, vous pouvez dire, hey, les patates pilées étaient super bien pilées hein, à soir. Je trippe au bout, elles sont super bonnes ces patates pilées-là. C'est simple, mais ça bénit. Ah, il aime mes patates pilées. Ou la purée, pour en France. La purée. Non, mais juste des choses simples de la vie. C'est pas obligé d'être toujours de bouquet de roses pour se faire pardonner. Ça peut être juste entretenir notre relation comme ça. Faites comme ça. Vous vous réveillez le matin, puis là, vous commencez à dire, hey, ma femme, tu fais donc bien, je sais pas, t'es donc bien belle le matin. Des choses comme ça. Juste souligner des belles choses. Amen. Dans Jacques 3, verset 10, ça dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Une des choses importantes, c'est que si vous voulez vivre la bénédiction de l'Éternel, vous voulez voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre couple pour restaurer votre couple, votre bouche doit s'aligner avec le rapport de Dieu et la destinée de Dieu pour votre mari ou votre épouse. Si vous parlez toujours la réalité, OK? Vous allez vivre la réalité. Mais si vous êtes prêt à changer votre vocabulaire et commencer à bénir votre épouse ou votre époux, vous allez commencer à voir une transformation dans votre couple. Je connais une sœur dans le Seigneur, en Alberta. Son mari, OK, était un homme de Dieu. Il allait à l'église pendant un temps. Mais après, il a commencé à boire de l'alcool. Puis là, un petit peu par petit peu, il a commencé à s'éloigner de Dieu. Et là, il allait se saouler. Il allait se saouler. Il rentrait à la maison saoul. Et puis, elle était brisée dans son cœur, puis elle se mettait à prier, puis elle dit, « Seigneur, elle dit, j'ai un mari qui est comme ci, qui est comme ça, c'est un saoulon, Seigneur, regarde la situation, oh Seigneur, puis elle commence à se défouler, il prend pas de temps avec les enfants, Seigneur, il est comme ci, il pense juste à lui, il dépense tout notre argent dans l'alcool, Seigneur, Seigneur, puis elle priait comme ça, et le Seigneur lui a dit, « Veux-tu arrêter de prier, s'il vous plaît, parce que tu ne pries pas en ce moment? » Elle dit, « Mais comment ça je prie pas? » Il dit, « T'es pas en train de prier, t'es en train de chialer. » C'est ça que Dieu lui a dit. Et puis là, elle a dit, mais comment ça? Il dit, je vais te montrer comment prier. Et là, le Seigneur lui a montré, et pendant 8 heures, elle a passé la journée dans sa chambre à coucher, tout seul, ses enfants étaient à l'école, et puis le Seigneur lui a montré surnaturellement, pendant des heures et des heures de temps, des versets qu'elle devait prier pour son mari. Donc là, elle a commencé à trouver la description du mari béni dans la parole de Dieu, et là, elle a commencé à le décréter sur sa tête. Il rentrait saoul, et puis il a dit, « Allô, vaillant guerrier de l'Éternel! » Mais c'est quoi cette affaire-là? Elle dit, « Béni de l'Éternel, grand homme de Dieu! » Ben là, voyons, là, puis il était saoul, là. Elle commençait à le bénir, elle bénissait. « Oh, tu vas prêcher l'Évangile, mon mari! » Ben là, voyons. Je peux vous dire, elle a fait ça, il n'y avait rien dans le naturel. Il y a des femmes qui vont juste dire, qui vont continuer à chialer, 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 puis décréter la réalité, mais la réalité, là, ça ne changera rien. Ça va juste continuer dans la mauvaise direction. Mais elle a décidé de mettre sa foi en Dieu, que Dieu était capable de transformer son mari. Elle a commencé à décréter la parole de Dieu sur lui. Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à croire les décrets de l'Éternel. Il a commencé à dire, c'est vrai, je suis pas obligé d'être pris avec cette bouteille-là. C'est vrai, Dieu est capable de me changer, de me délivrer. Et là, cet homme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu, ben, premièrement, il s'est repenti de ses péchés. Il est devenu un diacre à l'église. Plus tard, il est devenu pasteur d'une église de 1000 membres et après, il a fondé la première station chrétienne au Canada, Miracle Channel. Amen. Dieu est capable de prendre n'importe qui, de transformer n'importe qui, mais on doit coopérer avec le Saint-Esprit et commencer à avoir le langage du Saint-Esprit pour voir des miracles transformés. Si vous êtes dans votre couple aujourd'hui puis vous dites, on a besoin d'un miracle, Seigneur, on veut ta puissance. Êtes-vous prêt à changer? Êtes-vous prêt à coopérer avec le Saint-Esprit pour voir ces changements-là? La chose que Dieu vous demande, donnez-moi votre bouche, arrêtez de maudire, mais commencez à bénir. Amen. Et le Seigneur va faire des miracles. Dieu va faire des miracles dans chaque vie de cette église, si vous voulez. si vous voulez, puis si vous voulez coopérer avec le Saint-Esprit, watch out, diable, là, on va te faire débarrasser du chemin. Puis cette église, on va être les plus bénis de l'Éternel. Pourquoi? Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on s'attache à la parole de Dieu. Puis on dit, nous, là, on veut croire la parole de Dieu. C'est pas juste écrit pour la lire puis dire, c'est une belle parole. Non, elle est écrite, cette parole, pour qu'on puisse la vivre. Amen? Amen. Moi, je veux la vivre. Bon, c'est bon. Gloire à Dieu, parce que là, on vient de voir que Dieu peut faire des miracles dans notre couple. Mais si vous dites, ben, moi, je suis pas en couple, mais j'aimerais bien ça, moi, vivre des bénédictions. Ben, gloire à Dieu, il y a un volet pour vous ce matin également. Vous êtes encore éveillés? La puissance de Dieu est disponible pour vous à tous les niveaux et pour toute votre vie. Dans le psaume 20, on va aller dans le psaume 20, chapitre 8, verset 8 à 9, ou selon certaines versions, ça va être les versets 7 à 8. Donc, le psaume 20, verset 8 à 9 ou 7 à 8. Il est écrit ici, « Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux, nous, notre confiance, nous la mettons en toi, Éternel, notre Dieu. » Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Ça, c'est pour vous, enfants de Dieu. Je vais relire. Aux uns, les chars de guerre. Aux autres, les chevaux. Il y en a qui mettent leur foi, leur confiance dans le militaire. Ils vont dire, bien, nous, on va investir pour telle ou telle chose et puis on va mettre notre foi pour notre victoire dans ces choses-là matérielles. Les chars de guerre. Ici, on peut l'appliquer pour les guerres qu'on peut vivre dans nos vies. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi, Éternel, notre Dieu. On place toute notre foi dans toi, Seigneur. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et nous tenons ferme. Amen. Est-ce que c'est pour vous, ces enfants de Dieu? Restez debout, placez toute votre foi dans le Seigneur et vous attendre à vivre des miracles. C'est pour vous aujourd'hui. Amen. Mais la clé, c'est de mettre toute votre confiance en Dieu. Maintenant, on va voir dans Jérémie 17, versets 5 à 8. Ça, c'est un texte super béni. Ça va vous montrer le chemin de la bénédiction et en même temps, vous allez découvrir le chemin de la malédiction. Moi, je vous recommande la bénédiction. C'est ça que le Seigneur veut pour vous. Dans Jérémie 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit, dites maudit. C'est la première fois que je dis ça à l'Église. Mais ça dit, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. » Dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Qui fait des moyens humains la source de sa force. » Je vais le relire. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui fait des moyens humains la source de sa force et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Il est comme un misérable dans le désert. Un misérable, est-ce que ça vous tente d'être un misérable dans le désert? Non. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Peut-être même, pas juste habiter les lieux brûlés, mais peut-être vous êtes vous-même brûlé par les gens. Une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Voyez-vous, il y a un contraste là. Il y en a un qui est maudit, qui se confie dans les hommes, et l'autre qui place sa confiance en Dieu est béni. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Dans la Bible du Sommeur, c'est dit, qui place sa confiance en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Pourquoi? Parce qu'il a confiance. Il ne s'inquiète pas dans la Bible du Sommeur. Il ne cesse de porter du fruit. Ça, c'est pour vous, enfants de Dieu. C'est pour nous, aujourd'hui. Si on choisit la bénédiction, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Si vous voulez vivre la bénédiction dans vos vies, peu importe le domaine, peut-être c'est au niveau de votre santé, peut-être c'est au niveau de vos finances que vous avez besoin de voir le bras de l'Éternel qui vient secourir. Peu importe le domaine, si vous mettez votre confiance dans l'Éternel pour la provision de l'Éternel, la parole de Dieu dit que vous allez vivre la bénédiction. Ça dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Est-ce que vous vous confiez dans l'Éternel aujourd'hui? Amen. On voit deux modèles dans la parole de Dieu. Il y en a qui le font, puis il y en a qui le font pas. Et vous connaissez sûrement Élimélec et Naomi dans Ruth. si vous lisez Ruth chapitre 1, verset 1 à 2, ça nous parle que Élimélec et Naomi étaient inquiets. Et puis là, ils vivaient la famine à Bethléem. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils disent, oh, ben, on vit la famine ici, on a peur, donc on va s'en aller à Moab. Ils se sont déménagés à Moab. Et puis cette place-là, c'est une place remplie d'idolâtrie. Et puis c'est une place païenne, c'est une place où la mort régnait. C'est une mauvaise place. La preuve, c'est qu'ils sont tous morts, sauf Naomi puis les brus. Eux, il y avait plus de foi dans la famine qu'il y avait la foi en Dieu. Ils se sont permis de quitter la terre de la bénédiction pour aller à Moab. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la mort. Dans Proverbe 14, verset 12, c'est dit, « Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Des fois, on raisonne, on dit, « Ouais, mais là, il faut partir. Regarde, il y a la famine ici. On est obligé de partir, là. On est forcé, on est obligé, là. » Il y a des gens, des fois, qui disent, « Ben, on est obligé de faire ça. On est obligé de désobéir à Dieu à cause, ben, il va comprendre, là, quand même. » J'ai rencontré des gens, des fois, qui disent, « Ben, le Seigneur, il comprend, là. » Ou des fois, on va défendre des gens qui sortent du chemin de Dieu. Je peux vous dire, quand vous défendez quelqu'un qui sort du chemin de Dieu, vous n'êtes pas son ami. Ça, c'est vrai. Des fois, on dit, « Ouais, mais on veut être gentil. » Mais vous n'êtes pas gentil, là. Quand vous découragez les gens de marcher avec Dieu ou d'être vraiment dans le chemin parfait de Dieu pour leur vie, vous n'êtes pas en train de les aider. Vous êtes mieux d'être honnête, dire, « Mon frère, ma sœur, regarde, le chemin parfait de Dieu, c'est sa parole. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est que tu es en train de t'éloigner. Je prie pour toi, je t'aime, puis je veux t'aider à revenir. » Mais ne félicitez pas quelqu'un qui s'en va dans un mauvais chemin. Mais ici, on voit l'histoire de Naomi, son époux, Élimélec, tous gang de mort. Naomi qui a survécu, bien sûr. On peut contraster maintenant avec Isaac. Isaac qui a vécu une situation très similaire. Dans Genèse, chapitre 26, verset 1, c'est dit, il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays pour Isaac. Genèse 26, versets 12 à 14, si on lit juste quelques versets plus tard, ça nous dit ici la réaction d'Isaac. Il y a une famine, qu'est-ce qu'il va faire Isaac? Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Avez-vous remarqué une chose, une différence? Il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui est béni. Une différence ici. Mais il y avait une réaction différente. Au lieu de fuir la place de Dieu, il a resté là. Cet homme, au verset 13, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins, les païens, lui portèrent envie. Il y avait une différence. Au lieu de se joindre aux païens, il était différent, il vivait un contraste ici. De la dépendance sur l'homme mène à la manipulation de l'homme et à l'esclavage. Si vous permettez, si vous relâchez votre foi et vous la placez en quelqu'un ou dans une source autre que Dieu, cette source-là va devoir vous gérer toute votre vie. C'est une des choses. Cette semaine, je pense que c'est mercredi matin, le Seigneur m'a donné ce verset-là concernant Jérémie chapitre 17. Et c'est une réalité. Si on se laisse géré par les êtres humains, on va être géré par les êtres humains toute notre vie. Mais si on dit, Seigneur, tu es ma source et je crois dans ta puissance et ton bras est assez long et assez puissant pour venir me secourir, que moi, je vais m'attacher après toi. Je vais marcher avec toi. Au lieu de main dans la main, bras comme ça. D'un bras à un autre bras. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu pour notre vie. Vous avez dit, mais c'est bien, il y a des gens qui sont bénis. Puis il y a des gens qui vivent des difficultés. Puis des fois, on va spiritualiser, puis on va dire, « Ah ben, si telle chose arrive, c'est parce que Dieu voulait ainsi. » Des fois, on ne comprend pas tous les mystères, mais il y en a plusieurs qu'on peut comprendre très facilement. Si on marche avec Dieu, Dieu nous montre la recette à suivre. Puis il dit, « Marchez dans mon chemin, vous serez bénis. » Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut marcher dans l'obéissance. Comme dans votre couple, ce que vous voulez faire, vous voulez marcher dans l'amour. Amen. Dans votre vie, peu importe avec vos contacts dans votre vie, vous voulez marcher dans l'amour et en même temps, vous voulez marcher toujours ayant les yeux sur le Seigneur Jésus, sachant qu'il est votre source et la bénédiction vient de lui. Je n'échangerai jamais ma foi ou je ne la passerai jamais dans une autre source. En terminant, vous allez dire, OK, mais comment est-ce que je peux faire vraiment dans la pratique là? Je veux vraiment être béni dans ma vie. Comment est-ce que je peux le faire dans la pratique? Mais je suis très content de vous demander la question parce qu'on va le voir ensemble. La délivrance de l'Éternel sera comme ceci pour vous, dans le psaume 136 et le verset 12. Le psaume 136 et le verset 12. « À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu a une main forte pour vous, un bras étendu. Ses bras sont étendus pour vous aider, vous secourir. Comment allez-vous retrouver cette sécurité dans le Seigneur? Comment allez-vous retrouver cette puissance pour votre vie quotidienne dans la bénédiction de Dieu? La puissance viendra par la foi dans le Seigneur et cette foi viendra par la parole de Dieu. Si on veut être béni dans notre vie, on doit se conformer à la parole de Dieu. On doit marcher dans l'obéissance. Si on a marché selon nos propres voies, on pensait que ça faisait bien du sens, mais finalement, ça mène vers la mort. Si on a été intelligent, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter et on va dire, écoute, je faisais ça, je faisais ma vie à ma façon. Là, je vais changer, je vais me repentir et je vais changer ma façon de vivre pour vivre la façon que Dieu m'appelle à vivre. Des fois, les gens dans la société comprennent mal les choses. Ils vont dire, ah, mais là, les principes de la Bible, c'est vieux, c'est démodé. Mais vous savez, quand on sert le Seigneur et on met les principes de la Bible dans nos vies, on voit toujours les résultats. Je peux vous dire, mon épouse et moi, on est des témoins de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que la Bible est écrite pour nous bénir, pour nous montrer le chemin à suivre. Puis si on dit oui, Seigneur, tu m'as montré que je devais faire ça, et si on dit oui, bien là, on voit la main de Dieu, on voit la puissance de Dieu dans nos situations personnelles. Et vous savez, c'est pour tout le monde, c'est vraiment pour tout le monde. Le seul temps, moi, qu'est-ce qui m'attriste des fois, puis je parle avec mon épouse là-dessus, je vois des gens qui passent à côté parce qu'ils pensent, bien, mon idée est meilleure que mon Créateur. Ce que moi, je veux faire avec ma vie, mes plans sont plus intelligents, j'aime mieux ça à ma façon. Mais à ma façon, ça mène toujours vers la mort. On récolte toujours des choses négatives. On récolte la destruction des relations. On récolte le divorce. On récolte toutes sortes de choses négatives. Mais aujourd'hui, si on dit, Seigneur, je veux ta pleine bénédiction dans ma vie, vous allez commencer à récolter la vie de Dieu dans vos vies. Là, tout d'un coup, vous allez commencer à voir votre restauration dans votre couple. Vous allez vivre la restauration dans votre vie, dans vos relations avec les gens. On termine ici avec le comment expérimenter la bénédiction de Dieu. Dans Josué, chapitre 1, le verset 7, il est écrit, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Sois rempli de foi aujourd'hui, en agissant fidèlement, selon toute la loi ou la parole que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Vous avez besoin de voir un miracle dans votre vie, dans votre couple, dans vos finances, dans votre corps, peu importe, vous avez besoin d'un miracle, vous avez besoin de voir la puissance de Dieu agir dans vos vies. Marchez selon la parole de Dieu. Et dans Jean 6, versets 67 à 69, dans Bible du Sommeur, ici, là, on vient de voir le texte, c'est Seigneur Jésus qui est en train d'évangéliser, si on veut. Il est en train de parler aux gens, puis il dit, si vous voulez vraiment me suivre, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Une belle façon d'inviter les gens à l'église, hein? On va dire, ah, il n'était pas très politically correct, c'est vrai. Alors Jésus, se tournant vers les douze, leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? » Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. On peut chercher à droite, à gauche, mais c'est toujours la parole qui dit vrai. C'est toujours la parole qui a raison. Nous avons mis toute notre confiance en toi. » Et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Si vous savez que la parole de l'Éternel est la parole de Dieu vraiment pour vos vies, vous allez vivre la différence. Matthieu 4:4, Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Est-ce qu'on veut voir les miracles? On doit se nourrir de la parole de Dieu. Et dans Éphésiens 6, verset 10, il est écrit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » La puissance de Dieu est là pour vous. Peut-être aujourd'hui, vous êtes là puis vous dites, « Bien, pendant longtemps, j'ai essayé de marcher avec Dieu, j'ai essayé de vivre des miracles, j'ai essayé par mes propres forces. » Mais aujourd'hui, c'est le jour pour vraiment tout abandonner. Le Seigneur vous appelle à tout abandonner et dit, « Seigneur, OK, j'ai plein de problèmes, j'ai plein de peaux cassées ici. Viendrais-tu restaurer ma vie? Viendrais-tu restaurer mes finances? Viendrais-tu restaurer mon corps? Viendrais-tu restaurer mes émotions? Viendrais-tu restaurer aujourd'hui mon couple? » On dirait que ça prendrait un miracle pour tout ça. Et le Seigneur est là et il dit, « Oui, je suis capable. Je suis capable d'intervenir. Non seulement je suis capable, mais je veux. Je veux intervenir. Je veux restaurer ta vie. Fais-moi confiance. » Enlevez vos mains là, sur les choses qui vous retiennent. Vous êtes là, ouais, mais je ne peux pas complètement relâcher prise. Je dois me tenir au moins après cette patente-là qui qui me retarde en fait, là. Mais relâchez, lâchez prise et placez votre confiance en le Seigneur. Dites, Seigneur, on commence un jour nouveau. Mon épouse et moi, mon mari et moi, peu importe, on commence un jour nouveau aujourd'hui. Peut-être vous allez vous rendre à la maison et redire vos paroles, vos vœux de mariage. C'est une bonne chose de faire ça. Des fois, à l'occasion de redire ces paroles-là et vous engager à nouveau. Et là, au lieu de souligner les choses négatives, là, vous allez commencer à souligner les choses positives. Vous allez vous apprécier. Vous allez vous bénir mutuellement. Vous allez prendre du temps ensemble. Vous allez être un modèle de l'amour de Dieu dans le monde pour vos enfants. Et là, vous allez refléter la gloire du Seigneur. Vous allez revenir à l'église. Vous allez être les couples les plus en amour sur la planète. Les gens vont dire, il faut que j'aille à cette église-là pour tomber en amour. Mais c'est possible, c'est possible. Dieu, là, il veut que vous soyez heureux à tous les niveaux dans votre vie. Mais on doit coopérer avec le Saint-Esprit. Amen. Puis si vous êtes là puis vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, vous dites, ben moi, je pensais que c'était juste démodé, ces choses-là. Mais c'est vieux, c'est vrai, c'est pas une nouvelle révélation qu'on vous donne. Mais si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, si vous n'avez jamais fait confiance à Dieu, si vous n'avez jamais vu la puissance de Dieu dans vos vies, aujourd'hui, c'est la bonne journée. La parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ça veut dire, Dieu veut vous délivrer de toutes les choses de l'ennemi, toutes les oppressions. Dieu, aujourd'hui, il est là, il tend son bras, il tend sa main vers vous, puis il dit, je veux t'avoir avec moi pour l'éternité. Ce que vous devez faire, c'est placer votre confiance en lui seul. Vous allez dire, oh, j'ai essayé pendant trop longtemps pour essayer de gagner mon ciel, gagner mon salut. Mais aujourd'hui, ce que vous allez faire, vous allez déplacer votre confiance que vous aviez en vous, et là, la placer sur Jésus et Jésus seul. Il est allé mourir sur la croix pour payer votre dette de péché. Et si vous croyez aujourd'hui qu'il a tout accompli pour vous, qu'il a payé pour votre dette de péché, vous avez simplement besoin de lui demander pardon, Seigneur. Pardon pour avoir commis ces choses-là, ces péchés-là. Et le Seigneur est fidèle et juste. Il va venir vous pardonner, vous purifier, vous laver de tout péché. Vous allez passer l'éternité avec lui. Je vais demander maintenant aux instruments, aux musiciens plutôt, à revenir maintenant, s'il vous plaît. Et je vais inviter chaque personne dans l'auditoire ici. Penchez vos têtes pendant quelques instants. Juste penchez vos têtes. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, ce n'est pas assez juste d'entendre parler que Dieu est bon, que Dieu restaure, mais puis après, passer l'éternité en enfer, ça serait dommage. Ça serait tragique, en fait. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut vous restaurer, il veut vous sauver, il veut que vous passiez de la mort à la vie. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, c'est la journée pour le faire. Pendant que tout le monde a leur tête penchée, je vais vous inviter à lever la main là où vous êtes et moi, je vais prier avec vous. Tout simplement, je ne viendrai pas vous gêner. Mais si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, en levant votre main là où vous êtes, dites, moi, je veux accepter le Seigneur Jésus dans ma vie. Je veux lui donner ma vie aujourd'hui. Et en faisant ça, vous allez passer l'éternité avec Dieu. Vous allez marcher avec lui. Vous allez découvrir la vie la plus heureuse sur terre. Vous allez vivre le miracle de la nouvelle naissance. Si vous n'avez jamais fait ça, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Je vais prier maintenant. Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui. S'il y a des amis à la radio, sur l'Internet, on réalise notre besoin de toi. On réalise qu'on n'est pas capable de se sauver nous-mêmes. On vient humblement disant, Seigneur, on a besoin de toi. Lave-nous, purifie nos cœurs. On se donne complètement à toi. On te donne notre vie aujourd'hui. On reçoit ton pardon. On reçoit ton amour aujourd'hui. Fais de ma vie, Seigneur Dieu, un chef-d'œuvre pour ta gloire. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie aujourd'hui, si c'est la première fois, contactez-nous en écrivant à info@evqmedia.com et on va se réjouir avec vous pour la décision d'avoir fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.